Radio Prague, les informations.
Samedi, le Parti civique démocrate présentera ses priorités de programme. Des remaniements sont effectués à la faculté de droit de Plzeň. Les hockeyeurs tchèques ont remporté leur premier match contre la Slovaquie. La conférence du Parti civique démocrate ODS, qui se déroulera samedi à Brno, présentera les priorités de programme de ce premier parti de droit du pays, formulées dans la perspective des élections législatives qui se dérouleront en mai prochain. Le parti présentera aussi ses visions politiques à moyen terme. Une quarantaine des 180 employés devront quitter la faculté de droit de Plzeň, chef-lieu de la Bohême occidentale, dans le cadre de la réforme que cet établissement est en train de subir. Réduire le budget de la faculté prévu pour cette année est le but principal des changements organisationnels en cours, qui sont également une réaction au récent scandale qui a éclaboussé la faculté et qui a mis à jour qu'au moins 400 personnes auraient obtenu leur diplôme de façon anormalement rapide. IKEM, l'Institut de médecine clinique et expérimentale, met sur pied un nouveau centre de recherche expérimentale qui servira à l'ensemble de ses cliniques. À l'avenir, la recherche y sera effectuée aura pour objectif d'apporter de nouvelles méthodes dans le traitement de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires, ainsi que d'améliorer les résultats de la greffe d'organes. Cette année, la piste cyclable internationale reliant les villes de Regensburg et de Prague sera prolongée jusqu'à Munich. Elle mesurera au total 450 km, tandis que la précédente ne s'étendait que sur 290 km. Le projet a été présenté par les représentants de l'Union du tourisme et les maires des villes concernées à une conférence de presse à Munich qui accueille le Salon des loisirs. Le nombre de touristes en République tchèque a baissé en 2009 de 5,7%. Ce sont des chiffres communiqués par l'Office tchèque des statistiques qui a mesuré le nombre de nuitées dans différents établissements d'hébergement collectif. Selon les spécialistes, la baisse du nombre de touristes est due à la crise économique mondiale. La Bibliothèque nationale ouvrira en mars une exposition qui présentera les premiers ouvrages imprimés en pays tchèque. Le point fort de l'exposition, l'ensemble des 7 incunables anciens issus de la première imprimerie existant en Bohême, qui a ouvert ses activités en 1476 à Plzeň. Sport, l'équipe tchèque de hockey a bien commencé son tournoi olympique en battant la Slovaquie sur le score de 3-1. Plus de détails dans les faits événements en République tchèque. Météo, ce vendredi, le temps restera couvert sur toute la République tchèque avec de la brume et des brouillards verglaçants. Les températures diurnes se situeront légèrement au-dessus de zéro. C'était donc le journal présenté par Alena Gabertová.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition des faits et événements au programme du jour. Changement à la tête de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. Fin de fouilles archéologiques dans l'église Saint-Gall au centre de Prague. Et fin aussi d'une hypothèse selon laquelle cette église devait abriter les reliques de Sainte-Agnès. Entretien avec le directeur d'Euroradio Classique sur les échanges de programmes musicaux entre les radios publiques, dont la radio tchèque, avant de terminer, vous vous en doutez, avec la première victoire de hockeyeurs tchèques au jeu de Vancouver ce jeudi matin sur l'équipe de Slovaquie. Ensuite, nous vous proposons encore notre habituelle rubrique, les portraits. Bon écoute du programme sur Radio Prague. L'Institut pour l'étude des régimes totalitaires aura un nouveau directeur. Cet établissement a été fondé en 2008 pour étudier les périodes sombres de l'histoire moderne du peuple tchèque, l'occupation nazie et le communisme. Au cours de son existence, l'Institut a révélé de nombreuses informations importantes et a été souvent l'objet de critiques. Václav Richter.
Pavel Žáček, directeur sortant de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, a déclenché plusieurs fois une vague de critiques contre lui et son établissement. Il a été notamment considéré comme responsable de la publication du document controversé selon lequel l'écrivain Milan Kundera aurait dénoncé dans les années 50 un jeune homme à la STB, la police politique du régime communiste. Les critiques visaient également des manquements dans la direction de l'établissement. Au cours du mandat de Pavel Žáček, plusieurs historiens mécontents de l'atmosphère générale ont quitté cette institution. De notre côté, il est indéniable que Pavel Žáček a joué un rôle important, sinon décisif, lors de la création de cette institution considérée comme très utile, car son objectif est de jeter la lumière sur les pages sombres de l'histoire tchèque. C'est ce que rappelle la journaliste Petrushka Šustrová, membre de la commission qui a décidé de remplacer Pavel Žáček par l'historien Jiří Pernes.
Pavel Žáček a déployé énormément d'efforts pour imposer la création de cet institut, mais c'est justement sa capacité à lutter sans merci qui a nui à la coopération avec d'autres organismes. Je pense que Pavel Žáček est tout à fait capable de nouer des coopérations à l'étranger, mais sa coopération avec des institutions tchèques est laissée un peu à désirer.
Pavel Žáček doit donc céder son poste à Jiří Pernes, chercheur de l'Institut d'histoire moderne de l'Académie des sciences tchèques. Il a expliqué au micro de Radio Prague pourquoi, à son avis, le changement au poste de chef de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires était nécessaire.
Je pense que la direction actuelle de l'Institut a commis quelques erreurs qui étaient inacceptables non seulement pour la Commission, mais aussi pour une grande partie de la société tchèque. L'établissement se présentait comme une institution politique. Je ne pense pourtant pas que cela ait été intentionnel, mais c'est l'impression que ça donnait. En plus, certaines informations publiées par l'Institut n'étaient pas vérifiées à 100% et ont causé des problèmes.
Sur les 7 membres de la commission, 4 ont voté pour Jiří Pernes. Ce dernier envisage de procéder à une petite réforme de l'Institut.
J'aimerais d'abord débarrasser l'Institut de son étiquette d'institution politique, car je voudrais qu'il soit perçu comme les autres établissements de recherche. Je désire aussi que les informations émanant de l'Institut soient absolument sûres et véridiques, et je veux essayer également de réorganiser le système de recherche afin que l'Institut ne produise pas que des résumés biographiques et des données statistiques.
Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 1er avril prochain.
Ceux qui pensaient avoir trouvé se sont à nouveau trompés. Les recherches menées dans l'église Saint-Gall ont bien mis à jour la présence d'une sépulture, mais elle n'est pas celle de Sainte Agnès de Bohême. Le mystère reste entier, en Clairvelvire.
Depuis le XIVe siècle, le lieu du tombeau de Sainte Agnès de Bohême est recherché sans succès après que les religieuses du couvent ont caché ses reliques pour les protéger pendant les guerres hussites. Beaucoup d'espoir avait été suscité depuis quelques semaines lorsqu'un examen au géoradar sous l'autel de l'église Saint-Gall, dans le centre de Prague et situé à deux pas du couvent fondé par la Sainte en 1233, avait révélé la présence d'une dalle funéraire. Ce mercredi, c'est une sonde munie d'une petite caméra qui a été glissée dans le tombeau présumé de la sainte. Jerzy Schindelarge est géo-informaticien.
C'est un équipement qui sait mesurer les angles et la profondeur au millimètre près.
Aux grandes dames des archéologues, ce ne sont pas les reliques de Sainte Agnès qui reposaient dans ce caveau, mais un corps qui daterait du XVIIIe siècle. Néanmoins, la recherche pour les scientifiques ne s'est pas avérée complètement infructueuse, comme l'explique le responsable de la recherche archéologique, Jaroslav Podliska.
Les couches découvertes, donc ces documentations, ne diffèrent guère des autres recherches dans d'autres localités, mais évidemment l'utilisation de techniques avec une microcaméra dans une tombe est pour nous une spécialisation.
L'énigme de Sainte Agnès n'est donc pas résolue. Agnès reste néanmoins une des saintes les plus vénérées en République tchèque. Elle a été canonisée par Jean-Paul II le 12 novembre 1989, quelques jours à peine avant le début de la Révolution de velours.
Le concours radiophonique international pour jeunes musiciens, Concertino Praga, organisé par la radio tchèque depuis 1966, s'inscrit parmi des manifestations musicales chapeautées par l'Union européenne de radio-télévision UER. Ce lundi, le jury international était réuni à la radio tchèque pour proclamer les résultats de Concertino Praga 2010. En accord avec les règles du concours, un représentant de l'UER était présent en tant qu'observateur neutre pour veiller à la transparence du processus. Cette année, ce rôle était assuré par le directeur de l'unité Euroradio Classique, Pierre-Yves Tribolet, qui était également présent en tant que responsable de la politique musicale de l'Union européenne de radio-télévision, dont la République tchèque est membre depuis 1990.
Si je suis ici en tant que représentant de l'Union européenne de radio-télévision, c'est que ce concours a lieu sous les auspices de cet organisme. Cet organisme de l'Union européenne de radio-télévision est basé à Genève et rassemble toutes les radios publiques nationales du monde entier. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous avons une politique musicale et le concours Concertino Praga prend place dans cette politique musicale.
Vous-même, vous êtes directeur d'Euroradio Classique.
Oui, c'est ça, exactement. C'est une tâche dans laquelle je rassemble les activités de la musique classique, du jazz. Et dans ce cadre des activités, nous avons évidemment des échanges de concerts très nombreux, environ 3500 concerts par an qui sont distribués via les services de l'Union européenne de radio-télévision auprès de tous les membres radio dans le monde entier, mais également une politique d'association professionnelle pour permettre à tous ceux qui font des programmes musicaux de se rencontrer, à tous ceux qui produisent de la musique, de mettre en réseau leurs connaissances, car les radios publiques ont des orchestres, comme vous le savez bien. Les radios publiques membres de l'UER dépensent un demi-milliard d'euros par année pour leurs orchestres de radio. Donc c'est important qu'ils mettent cela, qu'ils mettent leurs expériences en commun, qu'ils mettent leur production à disposition et que les politiques musicales complètes de relations avec les organismes tiers, comme les concours, comme les festivals, comme les maisons d'opéra, soient harmonisées, et c'est ma tâche.
Nous rappellerons que la radio tchèque possède plusieurs ensembles musicaux dont les enregistrements sont écoutés par un important auditoire en Europe et en Outre-mer grâce aux échanges via l'Union européenne de radio-télévision. Le plus célèbre, l'Orchestre symphonique de la radio tchèque, fondé en 1926, est lauréat de nombreux prix internationaux dont le Classical Award à Cannes. Il y a aussi un orchestre de danse et de jazz, le fameux Big Band de la radio tchèque, qui souffle cette année, c'est 50 bougies. La République tchèque n'a pas manqué ses débuts dans le tournoi olympique de hockey sur glace. À Vancouver, mercredi soir, Jaromír Jágr et ses partenaires ont battu la Slovaquie. Obtenu dans le toujours prestigieux derby tchécoslovaque contre un adversaire aussi talentueux et redoutable qu'Anosé, cette première victoire devrait permettre aux Tchèques d'aborder avec confiance et sérénité la suite de la compétition. Guillaume Narguet.
Dans son pronostic avant le tournoi olympique, Dominik Hašek, le gardien de but, grand artisan de la médaille d'or tchèque aux Jeux de Nagano en 1998, avait annoncé que la réussite était indispensable pour aller loin dans ce type de compétition. Il n'aura pas fallu plus d'un match pour que ses propos se vérifient et pour constater une fois encore combien pouvait être ténue la ligne entre une victoire et une défaite. Car si les Tchèques n'ont pas volé leur succès contre la Slovaquie, ils peuvent cependant s'estimer heureux d'avoir pris un avantage décisif à un moment du match, la fin du deuxième tiers-temps, où les Slovaques auraient pu tout aussi bien le faire à leur place. Alors que les deux équipes étaient à égalité, un but partout, Jaromír Jágr a en effet redonné un but d'avance à son équipe à la 38e minute, juste après qu'un lancer slovaque ait échoué sur le poteau de la cage tchèque. Assurément le tournant du match, suivi deux minutes plus tard du troisième but tchèque, signé du centre des Canadiens de Montréal, Tomáš Plekanec, à 2 secondes de la sirène. Reste que c'est un autre Tomáš qui était le pilier de la victoire tchèque, auteur de 34 arrêts pour un seul but encaissé. Le gardien Tomáš Vokón s'est montré décisif dans le deuxième et troisième tiers-temps au plus fort de la domination slovaque. À la sortie de la glace, le portier tchèque retenait toutefois surtout le formidable niveau de jeu de la partie.
Je pense que le niveau ici est encore plus élevé qu'en NHL. Chaque joueur, ou presque, qui participe à ce tournoi est une vedette en NHL. Ça a été un match fantastique pour les joueurs comme pour les spectateurs, disputé à une vitesse et à un rythme très élevé. C'est d'autant plus difficile pour un gardien, mais je dois dire que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai disputé jusqu'à présent dans ma carrière. Et puis, c'est toujours très particulier d'affronter les Slovaques. Nous sommes rivaux, mais ce sont aussi nos amis. Tout le monde a envie de gagner et de se mettre en valeur. Il faut avouer que nous avons eu un peu plus de réussite qu'aujourd'hui, car ça a été un match vraiment très équilibré.
Fort de cette première victoire, les Tchèques affronteront désormais la Lettonie, l'adversaire a priori le plus faible de leur groupe, vendredi, puis la Russie dimanche pour un affrontement dont spécialistes et publics attendent déjà énormément. Après le match contre la très joueuse Slovaquie, celui contre l'armada offensive de la Sborna, composé des Ovechkin, Makin, Kovalchuk et autres Fyodorov, constituera un sacré test des réelles perspectives dans ce tournoi olympique de cette République tchèque prometteuse et séduisante lors de son entrée en matière.
Merci Guillaume, c'était les faits événements. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Prague. Notre programme se poursuit.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Dans les années 1960 et 1970, Anna Fetcheva était la soliste de l'orchestre Romashtar et faisait partie des chanteuses roms les plus en vue dans la Tchécoslovaquie de l'époque. Pourtant, elle ne sait pas lire une partition, ce qui est courant chez les chanteurs et musiciens gitans, mais elle ne sait pas non plus jouer d'un instrument. Depuis 1981, la chanteuse vit en Allemagne, à Berlin, où elle chante en solo avec le groupe de violonistes Martin Weiss. Elle donne des cours de danse et de musique tzigane et travaille comme surveillante assistante dans une école. Dans le cadre de cette dernière activité, elle fait avec les enfants des promenades du dessin, les apprend à réciter des poésies, à chanter des chansons et à danser le tchardash tzigane. Bref, elle leur présente la culture rom en général. Au cours de sa carrière en Tchécoslovaquie, elle a fait des enregistrements à la radio tchécoslovaque, a enregistré quelques disques pour les sociétés d'édition philharmoniques Supraphon et Pantone, surtout avec son frère Josef Fetcho, musicien et compositeur. Elle a aussi enregistré un album avec Martin Weiss et le Synthi Jazz. Anna Fetcheva est née le 12 janvier 1954 dans la pittoresque commune de Lučka, dans la région de Bardejov, en Slovaquie de l'Est. Elle vient d'une famille de Roms sédentaires, qui habitait une jolie maison avec un jardin, située entre les habitations des Gadjos. Ses parents exploitaient un vaste champ, élevaient des poules, des canards et des porcs, qu'ils vendaient également. Ils faisaient aussi du commerce avec les chevaux élevés par ses grands-parents. La mère d'Anna était chanteuse avec une très belle voix. Son père jouait de la clarinette et du bratsch. C'est un violon alto. On écoute Anna Fetcheva qui évoquait ses souvenirs d'enfance.
Je crois que j'ai commencé à danser et à chanter dans le ventre de ma mère. En tout cas, c'est ce que je pense. Dans la famille, tout le monde était musicien. On avait même un orchestre de cymbalum qui jouait au mariage et au bal populaire. Je crois que ça a dû être une très belle vie. Je me souviens aussi que lorsque j'étais petite, le samedi et le dimanche, ma mère faisait toujours des gâteaux et l'odeur des pâtisseries fraîches chatouillait le nez des gens qui rentraient de l'église. Ils venaient chez nous, même les gadjos. Et en été, on sortait les tables dans le jardin. Tout le monde mangeait et nous, on chantait. Les Roms jouaient sur différents instruments. C'était magnifique, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme cela. J'aimais aussi beaucoup les fêtes de Noël. L'ambiance était magnifique. On ne recevait pas de cadeaux à profusion, mais il y avait beaucoup d'amour, et c'est ce qui était important. Toute la famille se réunissait autour de l'arbre de Noël, joliment décoré, et chantait des chansons de Noël, pas du tout tziganes. Et on allait aussi à l'église. D'ailleurs, je crois en Dieu, même si je ne vais pas souvent à l'église. Lorsque ma maman est décédée en décembre 2002, j'ai chanté à son enterrement, car c'est ce qu'elle a toujours souhaité. Mais j'ai chanté juste un peu, car je trouvais bizarre de chanter en pareille occasion.
À l'école élémentaire, Anna chante dans l'ensemble de l'école, qui participe à différents concours qu'il gagne d'ailleurs. Pour la première fois, elle se présente en public à la radio locale de son village natal, à l'âge de 10 ans, accompagnée à la guitare par son frère de 5 ans. Elle avait le trac, mais tout s'est très bien passé. C'est à cette période qu'elle commence aussi à fréquenter l'école de musique. Le professeur de l'école met sur pied un orchestre où elle chante en soliste. À 10 ans, donc, elle avait déjà son propre groupe, comme elle dit elle-même. À 12 ans, Anna part à Prague avec deux managers et chante dans les hôtels prestigieux comme Novodvorská Koliba, Intercontinental ou Ambassador. Elle devient une vraie chanteuse et danseuse professionnelle de tchardage tzigan. Elle gagne beaucoup d'argent, travaille jusqu'à 2h du matin, va se coucher à 5h et dort toute la journée. Ce n'est pas vraiment une vie d'adolescente et elle présente aussi des inconvénients. Régulièrement, Anna est absente en classe pendant 3, parfois même 6 mois. Par conséquent, elle n'a jamais réussi à terminer l'école élémentaire et elle ne possède aucun certificat d'études, à part celui de surveillante qu'elle a obtenu beaucoup plus tard. Jusqu'à présent, elle regrette infiniment de ne pas avoir fait d'études et le ressent comme un grand handicap. Elle a fait 2 ans d'études au conservatoire de Prague et en Slovaquie, mais là aussi, elle n'est jamais arrivée à obtenir son baccalauréat. En 1981, elle trouve l'homme de sa vie, dont elle tombe éperdument amoureuse, et part avec lui à Berlin, où elle vit jusqu'à présent. Elle donne des cours de chansons tziganes pour débutants, mais ils doivent tous savoir lire les partitions et jouer de leurs instruments. Puis elle travaille aussi comme surveillante assistante, profession pour laquelle elle possède un diplôme. À part différentes activités culturelles, Anna prépare avec les enfants des spectacles en costume rom. Les costumes coûtent très cher, alors Anna les confectionne elle-même. Ils sont très beaux, avec beaucoup de fantaisie. Elle en dessine les modèles, puis elle cherche les tissus. Par exemple, elle a acheté des jupes d'été avec beaucoup de couleurs au magasin d'occasion Humana. Les a un peu arrangées en ajoutant un foulard par-ci, un foulard par-là, et le costume est prêt. Elle a présenté un spectacle, par exemple, dans le cadre du festival Le Carnaval de la Culture, à Berlin, avec beaucoup de succès. Son propre costume, qui fait très gitan, a été commandé sur catalogue et c'est sa mère qui le lui a arrangé. Pendant 1 an, Madame Fetcheva a travaillé au sein de l'Union Rome, mais n'a pas réussi à se voir octroyer des subventions pour ses activités culturelles. Les subventions pour la politique ont souvent la priorité.
Y corcorroso a choroso Oí lo más duca palote Au que
Anna chante avec différents groupes dont celui de Martin Weiss et elle invite des groupes de la République tchèque et de Slovaquie comme par exemple le groupe Bagarovce. Elle se présente dans le cadre de différents festivals, spectacles, mariages et dans des cafés-concerts prestigieux comme le Café Lyrique à Berlin. Elle aimerait beaucoup réaliser un projet dont elle rêve depuis longtemps. Anna Fetchova.
Rada bych natočila CD, jo, ale s našima taky Romama.
J'aimerais enregistrer un CD de chansons tziganes originales avec cymbalum, avec des groupes célèbres comme les Horvatovce, Bagarovce, Riskovce et les Fetchovce. Ces derniers, c'est ma famille. À Berlin, différentes agences m'ont souvent demandé de faire des ateliers de tcharda et de chansons tziganes avec cymbalum. Mais ils voulaient une vidéo et des photos tout de suite, car ils ont besoin de faire la publicité 6 mois à l'avance. Mais je n'avais rien et je n'ai pas toujours le matériel qu'il faut. Premièrement, je ne sais jamais par avance avec qui je vais jouer. Et deuxièmement, lorsque j'ai demandé aux musiciens roms comment faire, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps ou que l'argent manquait. C'est dommage. Pourtant, il faut avoir des books et des vidéos de présentation pour pouvoir passer des contrats. Alors j'espère réussir à faire une vidéo, à rassembler des photos que jusqu'à présent, je n'ai malheureusement pas. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai.
Perfectně video udělat, fotky, a to nemám, bohužel, snad někdy.
L'ex-danseuse de Tchardash et chanteuse Tsigane Anna Fetcheva est mère de deux enfants, une fille qui est mannequin et a remporté le deuxième prix Miss Berlin et un fils qui est ingénieur, expert en informatique. Il suffit d'entendre la voix de cette femme toujours attractive pour se faire une idée de son talent.
C'est la fin du programme en français sur Radio Prague. Merci de votre attention. L'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. À très bientôt donc. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100 hours.